Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je rencontre le pasteur Jean-François Braine, qui est le tout nouveau président du conseil régional des Cévennes Languedoc-Roussillon de l'Église protestante unie. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Radio Alliance Plus, d'être présent pour notre radio. C'est important pour nous de faire votre connaissance. Et puis, il y a des personnes qui vous ont déjà rencontré. Vous n'êtes pas un inconnu dans la région. Vous allez nous expliquer pourquoi d'ailleurs. Comment cela se fait-il que vous ayez pris ce poste, de ce ministère de président et de région? Et puis avant ça, qu'est-ce qui s'est passé un peu pour vous dans votre vie? Il y a eu certainement des moments importants qu'il serait bon de nous dire un peu. Voilà.
Voilà, ben merci de m'avoir invité à cet échange. Alors effectivement, je pense que ma voix n'est pas complètement inconnue pour un certain nombre d'auditeurs, puisqu'il m'arrive aussi de commettre quelques cultes sur cette radio. Alors c'est toujours difficile hein, de dire un petit peu comme ça, rapidement, d'où on vient. Nos vies sont tissées de multiples rencontres hein, et de multiples événements qui font que nous sommes ce que nous sommes. Mais je dirais que peut-être, si la question c'est de savoir à quand remonte le ministère pastoral, en tout cas la préoccupation et l'éventualité d'un ministère pastoral, c'est quelque chose qui est apparu en fait assez rapidement dans ma vie. J'étais lycéen, voilà. Alors à ce moment-là, pas vraiment pour aller dans cette direction-là, puisque j'étais dans une école forestière en Savoie, à côté d'Annecy. Voilà, donc à ce moment-là, j'avais 16-17 ans et je pensais, en tout cas je me préparais à passer le concours d'entrée pour l'Office national des forêts et pour être garde forestier, voilà, tout simplement. Alors je venais de Paris, alors, il y avait sûrement des illusions de petits parisiens sur la forêt, etc., etc. Bon, voilà. Et puis c'est pendant ces 3 années à l'école forestière, en fait, que va se poser de plus en plus pour moi la question de Dieu et de l'importance de l'Évangile dans ma vie. Et puis, petit à petit, se forge la conviction que il y a peut-être un appel à servir cette parole-là qui, moi, me rejoint et me touche et commence déjà à me faire vivre. C'est des rencontres, bien sûr. Alors c'est un lycée catholique à ce moment-là. L'enseignement agricole est beaucoup tenu par l'Église catholique. Il y a une aumônerie. Je m'engage dans cette aumônerie catholique. Et puis alors la réputation du petit protestant qui connaît mieux sa Bible, voilà. Alors du coup, je prends un certain nombre de responsabilités au sein de cette aumônerie. Et en fait, c'est par là hein, que va se poser la question, pour moi, de plus en plus forte, de plus en plus prégnante, de « mais tu fais quoi de ta vie, finalement ?» Alors peut-être les arbres ne me parlaient pas assez, je ne sais pas, mais en tout cas, assez rapidement, dès la fin de mes études, je ne passe pas le concours d'entrée, finalement, à l'Office national, et je rentre sur Paris, et là, je vais fréquenter une paroisse luthérienne dans le 19e arrondissement, et c'est le pasteur de l'époque qui va m'encourager à m'inscrire en faculté de théologie et à commencer et voilà, à me familiariser un peu avec ces questions-là. Ça nous emmène, là on est dans les années 85-90, hein, puisque j'ai 60 ans, je ne sais pas, voilà, ça nous ramène quelques années en arrière. pour des raisons personnelles, je me retrouve dans le sud de la France, un peu, voilà, de façon un peu rapide et un peu radicale. Je rencontre le pasteur Michel Bertrand, qui était à l'époque président du conseil régional de PACA, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, le conseil régional de l'Église réformée de France. À l'époque, on parlait de l'Église réformée de France. Et c'est lui qui va me confier la desserte de Lourmarin. Je ne suis pas encore complètement pasteur, hein. J'ai pas terminé mes études de théologie, mais il va me confier la desserte de la paroisse de Lourmarin, donc en Provence, dans le Luberon, pendant 3 années. Voilà, de 90 à 93. Après, je rencontre la commission du ministère. Je n'ai pas terminé mes études de théologie, donc je vais aller à Montpellier pour 3 ans pour terminer mes études de théologie. Et puis, je serai nommé proposant dans les Cévennes, sur la paroisse à l'époque, on appelait ça le Viganais. Aujourd'hui, les Cévennes méridionales. Et là, je vais passer mon proposanat. Et puis, 6 années, mon premier ministère, véritablement, hein, dans l'IRF, comme pasteur. C'est là que naîtront deux de nos enfants. Et puis, bon, on va pas rester plus longtemps dans les Cévennes parce que mon épouse n'y trouve pas de travail. Elle est travailleuse sociale. Pour elle, c'est important de pouvoir reprendre une activité professionnelle. Et donc, on va arriver en 2002 à Nîmes. Voilà, où elle a trouvé du travail et où la paroisse de Nîmes a la faiblesse de me prendre comme l'un de ses pasteurs. Voilà. Et je resterai 14 ans à Nîmes. Donc ça a été un grand moment de mon ministère, un moment très riche. Le Vigan, c'était chouette aussi. Hein, je me suis régalé en Cévennes. Mais à Nîmes, ça sera un moment vraiment très fort puisqu'on aura la chance avec mon collègue Charles Bossert de créer un nouveau lieu de vie, un nouveau centre paroissial, d'assister à la construction de ce centre, Masse des Abeilles, de pouvoir travailler avec une équipe tout à fait formidable de gens avec qui je suis resté très lié. Ça a été quand même un grand moment de mon ministère, là, ces 14 années à Nîmes. Et puis, 14 ans, c'est fait beaucoup sur un poste. Hein. Normalement, oui. La constitution de notre église dit que c'est 12 ans. Donc, vous voyez, j'avais fait déjà un peu de rab. J'avais une dérogation, hein, en bonne et due forme pour ça. Et puis, à ce moment-là, je suis appelé par la conférence des présidents et inspecteurs à aller sur Paris. Et donc, je prends en charge, après avoir rencontré le conseil presbytéral, bien sûr, la paroisse Saint-Jean, rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement, paroisse luthérienne. Voilà, alors je retrouve mes origines luthériennes, hein, puisque la paroisse dans le 19e, quand je rentre à Paris et que j'ai 18 ans, c'est une paroisse luthérienne. Donc voilà, là, je passe 5 belles années, mais alors compliquées, parce que c'est les années Covid, hein, là on se retrouve avec le Covid au milieu, donc le confinement en plein Paris, ce qui n'est pas tout à fait idéal, même si on avait un très grand presbytère et on était à côté du temple et des locaux paroissiaux, donc nous on était quand même très très bien lotis, hein, on avait vraiment du dégagement, hein, on n'était pas dans un 3 pièces avec balcon, hein, mais quand même, ça a été une période un peu difficile, exaltante, beaucoup de choses, on a découvert les cultes par Zoom, etc., etc. Une intense activité pastorale, ce qui m'a concerné. Je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie que pendant ces 2 années de Covid. En partenariat avec l'une de mes collègues, d'ailleurs, qui était très proche, où dès le lendemain du confinement, on s'appelle, on se dit qu'est-ce qu'on fait, et bien on décide d'essayer de faire les choses ensemble. Voilà, Marie-Pierre Courneau, ce qui nous a évidemment beaucoup rapprochés. Alors pas physiquement, puisqu'on était confinés, mais on passait nos journées par Zoom et au téléphone pour préparer, mettre en place toutes les activités de la vie de l'Église qu'on a continué à faire fonctionner, ce qui a beaucoup rapproché nos deux communautés. Elle était sur une communauté réformée, moi sur une communauté luthérienne, donc c'était intéressant. Voilà, ça a été un moment riche aussi, là, hein, à nouveau, très, très, très fort. Et puis, alors là, pour des raisons liées à mon épouse et à sa carrière professionnelle, entre guillemets, entre-temps, elle était devenue fonctionnaire hospitalier sur Nîmes, donc en disponibilité pendant nos années parisiennes, et elle avait l'opportunité de retrouver son poste. Et donc, du coup, j'ai demandé une dérogation. Je n'ai pas fait 6 ans à Saint-Jean, j'en ai fait que 5 ans, pour pouvoir revenir en Cévennes Languedoc-Roussillon, afin qu'elle puisse retrouver son poste à Nîmes, puisqu'étant plus jeune que moi, dans quelques années à la retraite, mais elle, avec encore une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années peut-être à devoir travailler, c'était elle qui était prioritaire sur cette question-là. Et donc, le président de région de l'époque que j'avais rencontré m'avait dit, écoute, à côté de Nîmes, il y a les paroisses de l'ensemble des terres du milieu, donc autour de Vergès, Codognan, Lunel, hein, voilà, qui sont disponibles. Donc j'ai dit OK desservir ces paroisses-là. C'était un petit clin d'œil parce qu'au moment de mon passage pour mes études à Montpellier, il se trouve qu'on logeait au presbytère de Vergès. Alors vous voyez, 30 ans plus tard, on a remis notre lit dans la même pièce, ce qui était assez amusant. Et voilà. Et puis c'est toujours sympathique de rencontrer des gens à la sortie du culte qui se souviennent de vous 25 ou 30 ans plus tôt. Voilà. Et puis je pensais que ça serait mon dernier poste, tout simplement, hein, puisque dans 4 ans, normalement, je peux prétendre à la retraite. Donc voilà, je m'étais plutôt tranquillement et sereinement installé dans ce poste, alors qu'il n'est pas sans difficulté au demeurant, hein, secteur un peu complexe, en pleine restructuration, donc c'est pas facile pour les gens là-bas, et du coup pour les pasteurs là-bas. J'étais en binôme avec ma collègue Aude Beauchamp. Mais voilà, justement, c'était riche et plein de défis, et moi je pensais que voilà, je serais tranquille comme ça, jusqu'à la retraite. Et puis, ben, que nenni, hein, voilà, l'Église en a décidé autrement, le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais en tout cas l'Église. Et comment ça se passe? Eh bien, ça se passe qu'au printemps 2023, il y a quasiment un an, hein, à un mois près, il y aura un an, un soir, mon téléphone sonne, voilà, tout simplement, ça se passe comme ça. Donc on décroche, et puis, alors une voix amie que je connaissais, parce qu'il se trouve que, voilà, j'avais déjà eu à travailler avec cette personne qui était président de la commission des nominations, puisque quand il faut trouver un nouveau président du conseil régional et de nouveaux membres du conseil régional, le conseil régional a la possibilité de faire appel à une commission des nominations qui va enquêter et pour essayer de rechercher quelle serait la personne, sinon la plus adéquate, du moins la moins problématique pour ce type de poste. Et donc, voilà, il me dit, voilà, je coordonne cette commission des nominations et je t'appelle parce qu'on a pensé à toi. Voilà, ça se passe comme ça, tout simplement, en toute simplicité. Je ne vous cache pas que sur le coup, c'est un grand éclat de rire, en disant, voilà, vous êtes gentil, mais vous arrivez un peu tard, quoi, c'est plus tout à fait dans le timing. Je dis ça parce que j'ai été longuement au conseil régional de CLR, j'ai été pendant peut-être une dizaine d'années même vice-président, tout à la fois de Christian Bouzy et puis de Sophie Zensamedro. Donc voilà, à un moment, j'étais plutôt dans ce type de responsabilité comme vice-président de conseil régional, et si à ce moment-là, il y avait eu un appel, bah, en tout cas, oui, ça faisait partie des choses qui auraient été envisageables, mais là, ça me semblait complètement inenvisageable et un peu acadabrantesque, presque. Hein, voilà, tu t'es trompé de film, quoi. Tu n'as pas lu le bon scénario et tu ne parles pas à la bonne personne. Voilà, donc ma première réaction était un peu celle-là, quand même, je le cache pas. Et puis, bien sûr, quand même, après, on y réfléchit. Et puis, il me dit, on prend rendez-vous, et puis on viendra te voir avec deux autres membres de la commission. En plus, ces deux autres membres, je les connaissais aussi pour avoir travaillé avec eux. L'une des deux était même une ancienne présidente du conseil presbytéral de Nîmes, donc forcément avec qui j'ai beaucoup travaillé. Donc des gens avec qui je suis en confiance, et ça, c'est important pour moi. Voilà, on a passé une heure et demie dans mon bureau. Et puis, ils ont réussi à me convaincre, on va dire ça comme ça. et donc j'ai quand même demandé une semaine de réflexion encore pour en discuter avec mon épouse, parce que ça voulait dire à nouveau un déménagement. On venait de déménager 2 ans plus tôt quand même,
oui, c'est
pour,
ça,
fait, ouais, pour passer de Paris à Vergès, donc à nouveau redéménager pour aller sur Nîmes, puisqu'il y avait un logement qui se libérait et qui pouvait être disponible pour nous sur Nîmes, puisqu'il fallait bien sûr libérer le presbytère de Vergès, c'est évident, ce presbytère est lié au poste que j'occupais, donc voilà, il fallait bien sûr en discuter avec mon épouse. Alors avec mes enfants, non, puisque mes enfants ne sont plus à la maison, nous avons 4 filles, mais qui sont grandes, puisqu'on est même grands-parents, 4 fois déjà. Donc la question ne se posait plus de la négociation avec les enfants, mais en tout cas avec mon épouse quand même. Alors elle, ça la rapprochait du CHU de Nîmes, donc là c'était plutôt bonne pioche pour ce qui la concernait. Mais donc voilà, et après réflexion et prière, je vous avoue, quelques coups de fil à des vieux amis pour savoir ce qu'ils en pensaient, parce qu'on n'est pas forcément toujours meilleur juge pour soi-même. Je pense même qu'on est souvent très mauvais juge pour soi-même. Donc j'avais aussi besoin de consulter des gens à qui j'ai confiance, qui me connaissent bien, pour savoir ce qu'ils en pensaient, voilà, de cet appel, si c'était pas complètement délirant. Et puis finalement, les retours allaient plutôt dans le sens de « écoute, fais confiance et vas-y ». Donc j'ai fait confiance et j'ai accepté, voilà, avec crainte et tremblement, vraiment. Et là, c'est pas une formule. Alors c'est une formule biblique, j'entends bien, mais c'est pas une formule de politesse ou pour faire bien, vraiment avec crainte et tremblement, parce que justement, un peu bien placé pour connaître les difficultés de ce type de poste, ayant été donc 10 ans vice-président de conseil régional, 8 ans au conseil national, dont 4 ans vice-président du conseil national avec Emmanuel Sebolt, donc quand même pas complètement naïf sur les difficultés tout à la fois que rencontre notre Église aujourd'hui, et puis les difficultés inhérentes à ce type de poste. Donc vraiment avec crainte et tremblement, mais en même temps avec finalement confiance, en me disant si on te dit que tu es appelé à ça, et ben, il faut faire confiance et il faut parier, il faut y aller. Donc voilà, avec crainte et tremblement, mais aussi confiance et reconnaissance. Donc voilà, j'ai dit oui. Pas facile. L'année est écoulée là, du moment où on dit oui, et puis au moment où on s'y retrouve vraiment. Là, on est assis entre deux chaises pendant, ben oui, 9 mois finalement, presque.
Comme un accouchement.
Voilà, c'est ça, le temps d'une gestation, en tout cas humaine. Et donc, voilà, ça, cette période-là n'a pas été facile. Parce qu'on se projette déjà, mais en même temps, on n'y est pas. Il fallait encore être présent pour Terre du Milieu à un moment aussi difficile pour eux puisqu'ils sont en pleine restructuration, voilà, être là, essayer de les accompagner en sachant qu'on ne pourra pas les accompagner jusqu'au bout, ça c'est un côté très très compliqué, très frustrant quand même, hein. Voilà, pas très facile, et je m'excuse auprès de celles et ceux que j'ai pu éventuellement enfin blessé ou en tout cas paraître un peu ailleurs, et c'est vrai que j'étais déjà un peu ailleurs, je l'avoue, hein. Donc voilà, période pas simple. Heureusement, l'Église m'a donné la possibilité pour les 4 derniers mois de prendre un temps sabbatique, alors qu'a pas été réel, en tout cas pour 3 de ces 4 mois, puisque déjà invité à la conférence des présidents et inspecteurs à Paris, déjà invité à la conférence des finances, etc., etc. Donc déjà en tuilage avec Jean-Pierre Julien, mon prédécesseur, que je tiens à remercier, qui m'a beaucoup accompagné à ce moment-là et ouvert toutes les portes, voilà, et ça, ça a été, voilà, je suis ensuite très reconnaissant. Donc voilà, ça c'est bien goupillé, mais bon, pas vraiment ça, en temps sabbatique. Un déménagement au milieu, quand même, hein, voilà. Alors on me dira, oui, mais t'as un déménagement, maintenant vous n'êtes plus que 2. Alors là, c'est pas ceux qui disent ça, ou bien ils ne sont pas grands-parents, ou bien ça fait longtemps qu'ils n'ont pas déménagé. Parce qu'en fait, un déménagement de grands-parents, c'est un déménagement familial, où on se retrouve avec, on a déménagé, des lits d'enfants, des poussettes, etc., etc., parce qu'on a 2 petits-enfants en très bas âge, donc évidemment, tout le matériel à la maison aussi pour les recevoir et les accueillir. Donc en fait, c'est un vrai déménagement familial, quoi, même si les enfants ne sont plus à demeure 24 heures sur 24. Donc ça, c'est, enfin, à l'âge où on arrive, ça commence à être fatigant quand même. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est fatigant, surtout 2 ans plus tard, remettre le couvert là-dessus. Donc voilà, un temps sabbatique qui n'a pas vraiment été du repos, sauf un mois. Un mois où là, j'ai réussi à sanctuariser un mois complet. Le mois de février, je me suis retiré, loin de tout, et même sans mon téléphone portable. Alors, c'est l'occasion de dire aussi... peut-être les choses qui comptent pour moi, l'œcuménisme est quelque chose d'important pour moi. J'ai laissé entendre tout à l'heure que finalement ma vocation pastorale était née dans mon engagement au sein d'une aumônerie lycéenne catholique. et finalement, les premières personnes avec qui je me suis confié de ça étaient des prêtres et des religieux, et qui m'ont encouragé à ça, hein, et qui m'ont soutenu dans l'appel de cette vocation, qui n'ont jamais cherché à me récupérer pour leur église d'ailleurs, parce que je me suis un peu interrogé. Ma maman était catholique, donc j'ai un peu grandi dans les deux églises. Papa était protestant, maman était catholique. catholique. Donc voilà, je me suis aussi un peu interrogé à un moment. Et voilà, ils m'ont soutenu en me disant « Non, mais tu as été baptisé protestant, reste dans ton église, c'est important, etc. » Enfin voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels. Et donc ce mois que j'ai pu sanctuariser, là, en février, je l'ai passé dans un monastère catholique. Voilà. Où j'ai été très très bien accueilli également. Et là, vraiment, j'ai décroché. Et je pense que j'en avais besoin.
Recharger les batteries
voilà,
à fond.
À fond, voilà. Pour arriver là, voilà, effectivement.
Tout neuf, presque.
Presque tout neuf, voilà. Voilà. Avec quand même 30 années de ministère au compteur, mais tout neuf. Et effectivement, alors peut-être l'occasion de dire que je découvre que c'est un tout autre ministère. Voilà, c'est ce qui n'a rien à voir, en tout cas pas grand-chose avec le précédent, en tout cas dans les habitudes quotidiennes, routinières. La première chose, par exemple, c'est qu'on n'a plus de paroisse. Voilà. Et ça, moi, ça fait 30 ans que je vis avec, pour au milieu d'une communauté paroissiale. Et là, tout d'un coup, on se retrouve, pardon mais pour l'expression, mais un peu à poil, sans paroisse. Par exemple, pour Pâques, je me dis, mais tu vas passer Pâques où ? Enfin, voilà. Alors bon... évidemment, j'ai des copains et des amis pasteurs, donc j'ai été squatté tel collègue pour le jeudi saint, tel autre pour le dimanche de Pâques, mais c'est très surprenant pour moi, vraiment, c'est très, très surprenant, plus de groupe d'études bibliques, plus de catéchèse, plus de tout ça, enfin, voilà, c'est vraiment notre ministère, hein. Et donc il y a un petit deuil à faire de ce qu'on a fait, et de ce qu'on a appris à faire, de ce à quoi on s'est habitué pendant 30 ans quand même pour moi. Donc il y a cette dimension-là, un peu de deuil, d'une certaine manière d'être, et puis de découvrir une nouvelle manière d'être, voilà. D'une nouvelle manière d'habiter ce ministère, d'une nouvelle manière d'être pasteur, parce que je me considère quand même toujours d'abord et avant tout comme pasteur. Mais voilà, on fait les choses autrement et les priorités sont absolument pas les mêmes. L'emploi du temps de la journée n'est absolument pas le même. On va au bureau, parce que moi j'allais toujours à mon bureau. Si je voulais y aller en robe de chambre et en pantoufle, je pouvais aller à mon bureau préparer mon culte en robe de chambre et en pantoufle. Là, on va au bureau, on a la chance de travailler avec une secrétaire, une comptable, etc. Enfin, voilà, donc c'est une toute autre vie, hein, qui s'ouvre pour moi et avec d'autres, évidemment, d'autres types de responsabilités.
Donc c'est, voilà. C'est une approche vraiment où il faut chercher ce qui est, comment être,
voilà,
comment être
ça.
Maintenant c'est... et chercher
trouver de nouvelles de nouveaux appuis, de nouveaux rythmes. Des difficultés là pour moi, ça fait que 10 jours que je suis vraiment en poste, hein, parce que
oui, voilà, je l'ai pas dit tout à l'heure.
Voilà, j'ai pris mon poste
tout
à Pâques,
ministère,
hein, voilà.
Mais j'ai pas dit depuis
quand. J'ai pris mon poste officiellement à Pâques, ouais, c'est tout nouveau, ça fait 10 jours, 11 jours. Donc trouver de nouveaux rythmes. Là aujourd'hui, mon défi c'est un petit peu ça. Là hier, j'ai passé toute la journée à Paris. Je suis rentré à 20h30 pardon, par un des derniers TGV. Bon, ben voilà, aujourd'hui c'est une journée à passer entre guillemets au bureau. Demain, je monte rencontrer les églises des Cévennes méridionales et le conseil du Vigan. Enfin voilà, donc. De nouveaux rythmes. Dimanche dernier, j'étais à Sète pour présider la reconnaissance du conseil presbytéral de l'église de Sète. Donc voilà, trouver de nouveaux rythmes. Pour moi, un peu le défi, c'est ça. Et puis, comment mettre en place aussi des priorités. Comment prioriser.
C'est quoi les priorités d'après vous, enfin, selon vous pour le moment, juste. En démarrant, enfin, ou comment vous voyez...
Alors, je dirais, peut-être qu'il y a deux manières de répondre à ça. La première, c'est sans tenir compte des réalités de notre région Cévennes-Languedoc-Roussillon et de la séquence de vie particulière que nous vivons. Donc sans tenir compte de ça, peut-être ça on y reviendra après, mais sans tenir compte de ça, pour moi aujourd'hui, mais ça c'est ce qu'on dit quand on commence, après il faudra reprendre cet entretien dans 2 ans, peut-être je ne vous dirai pas la même chose, hein. Mais aujourd'hui je dirais que mes priorités sont d'abord dans l'accompagnement des personnes. Donc d'abord l'accompagnement des collègues, et de toutes les personnes engagées dans responsabilité dans les églises. Je découvre, mais ça je le savais déjà un peu avant quand même, que nos vies sont de plus en plus complexes, de plus en plus tendues, la situation nationale, internationale font qu'on s'affronte à des choses difficiles, et donc voilà, il y a des tensions partout, du coup des fragilités partout, et je pense qu'une des priorités c'est l'attention, l'écoute et l'accompagnement, de tout à la fois des collègues. Je suis aujourd'hui un peu le pasteur des pasteurs, donc voilà, ma première priorité, je dirais, elle est peut-être là, et puis de tous les présidents de CP, trésoriers, conseillers presbytéraux, personnes engagées dans la vie de l'Église. Donc voilà, ça serait ma première priorité. Et la deuxième serait d'essayer de discerner ensemble quels seront les grands axes de travail et les défis à mettre en place pour les années à venir. Voilà, je pense qu'il y a toute une réflexion qu'il faut qu'on développe, qu'on reprenne.
Qui a été lancé un peu au synode,
qui est déjà depuis une quinzaine d'années, hein, mais ouais. Voilà, on est en plein dedans maintenant, il faut y aller, et donc ça va demander une attention très particulière pour essayer d'emmener tout le monde. Voilà, ma priorité, puisqu'on parle de priorité, c'est comment on fait pour avancer sans laisser des gens au bord de la route.
Alors, je vous remercie. Jean-François Brenne, il va y avoir les assises le 28.
Oui, alors, donc qui auront lieu le 27 avril,
27.
Hein, à Nîmes, à l'IFME, donc à côté du Mas des Abeilles, hein, chemin du Bachas, où on a invité tous les conseillers presbytéraux de la région et les personnes engagées à venir partager une journée de réflexion. Donc on a déjà plus de 300 inscrits, donc c'est plutôt... Enfin, nous, on est déjà reconnaissants de ça, on se dit que c'est déjà bien, quoi. Et cette journée est là pour nourrir la réflexion d'un synode extraordinaire qui aura lieu fin mai, qui là sera un synode financier. Donc pendant ces assises, on va plutôt réfléchir et travailler ensemble justement sur ces grands axes de priorité pour les 10-15 années à venir de notre Église. On travaillera, il y aura bien sûr cet arrière-plan financier, mais pas fondamentalement les questions financières. Les questions financières, ça sera le synode, hein, qui aura lieu, mais un mois plus tard. Hein. Mais on voulait que ces réflexions financières puissent s'appuyer sur une réflexion plus vaste, plus global, hein, parce que ma conviction, c'est que nos difficultés financières ne sont que le symptôme d'autre chose, hein, de difficultés plus qui sont en amont de ça, qui sont des difficultés liées à notre histoire, à notre héritage et à notre au fait qu'il nous faut nous réarticuler notre fonctionnement, repenser notre fonctionnement, nous ajuster à ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, nous ne sommes plus ce que nous avons été, mais nous continuons parfois à essayer de vivre comme si nous étions encore ce que nous avons été. Donc voilà, il faut réajuster tout ça, et je pense que si on réajuste tout ça, en remettant l'Évangile et l'annonce de l'Évangile et le partage de l'Évangile au cœur, eh bien, moi je suis très confiant sur l'avenir de notre Église en général, et dans notre région en particulier. Il faut juste qu'on s'en donne les moyens, qu'on se ressaisisse de tout ça. Donc les assises vont être l'occasion de partager, de nous écouter les uns les autres. On va beaucoup travailler en groupe, il n'y a aucune conférence, hein, de programmer. On ne vient pas écouter des gens qui savent et qui vont nous dire comment il faut faire, pas du tout. Hein. On a parié sur une pédagogie très très participative, donc on va beaucoup 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 travailler en groupe, très peu de temps de plénière, juste un temps le matin et juste un autre temps le soir. Et pour sortir quelques grands axes qui vont alors permettre au synode financier du mois de mai alors de s'appuyer pour prendre alors là des décisions effectivement qui impacteront directement la vie financière de notre région.
Très bien, mais un grand chantier et
grand chantier.
Beaucoup de travail pour le président du
et,
conseil
et
régional
et
de tout le monde.
Et tout le monde,
voilà.
Voilà.
Donc, je vous souhaite un bel avenir et beaucoup de belles choses dans ce tout nouveau ministère. Merci beaucoup, Jean-François Brenne.
Merci beaucoup. Merci à
une autre fois.
À une autre fois, avec plaisir.